Bien, bah, bonsoir. Et puis, bah, écoutez, je vais d'abord vous rappeler juste un petit truc. Ça serait bien que vous coupiez votre portable, ne pas oublier de couper le portable. Et puis, surtout, bah, je vous présente Nathalie Arthaud, notre porte-parole. Et puis, donc, moi-même, Jean-Marc Isca. Donc, bah, je vais tout de suite passer la parole à Nathalie Arthaud, notre porte-parole.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis, le vent de fronde qui s'est levé sur la Bretagne et qui est parti de la colère conjuguée des ouvriers licenciés et des petits paysans, les petits routiers aussi, révoltés par l'écotaxe, se fait désormais sentir à l'échelle de tout le pays. Cette fronde, elle se nourrit de toute une série de colères. Il y a eu la colère des sages-femmes, la colère des auto-entrepreneurs, la colère aujourd'hui des camionneurs, la colère même autour des rythmes scolaires. Mais ce sont bien les augmentations d'impôts qui cristallisent le ras-le-bol général. Et oui, il y a bien un matraquage fiscal. Mais il ne concerne pas les plus riches, il concerne les classes populaires. Comme toujours, ce sont les riches que l'on entend le plus. Prenez les clubs de football qui ont osé se plaindre de cette fameuse taxe sur les salaires de plus de 1 million d'euros, hein, la taxe à 75%, alors qu'ils sont riches à millions. Le grand patronat, les plus fortunés, se plaignent toujours pour un oui ou pour un non, mais ils pleurent la bouche pleine. Et le gouvernement Hollande leur a d'ailleurs fait cadeau sur cadeau. Ils ont eu droit, comme sous Sarkozy, aux exonérations, aux aides diverses. Hollande leur a même fait le cadeau du crédit d'impôt compétitivité de 20 milliards par an. Cadeau auquel même Sarkozy n'avait pas pensé. Alors, entendre ces messieurs protester contre l'impôt, c'est vraiment le monde à l'envers. Le véritable matraquage fiscal, ce sont toutes ces mesures qui ont été décidées en douce et qui font que d'un seul coup, près d'un million de salariés et de retraités modestes qui ne payaient pas jusqu'à présent l'impôt sur le revenu doivent maintenant en payer un. C'est aussi cette accumulation de petites réformes qui font qu'un salarié ou qu'un retraité modeste se retrouve à devoir payer 100, 200, 300 euros supplémentaires alors même qu'il n'a pas augmenté ses revenus. Et combien, aujourd'hui, dans les classes populaires, se demandent encore comment ils vont faire pour payer ces nouveaux impôts et pour joindre les deux bouts. Alors, c'est l'écotaxe qui a été la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase en Bretagne. Et oui, cette écotaxe est bien un impôt injuste. Parce que cette taxe, eh bien, elle n'a pas été conçue pour faire payer les gros du transport, les gros de l'agroalimentaire ou de la distribution sur leurs profits, non? Ça, le gouvernement prétendument socialiste en est incapable. Non, cette taxe, elle était conçue sans faire la différence entre les petits, entre les gros. Tout le monde devait payer, y compris le petit agriculteur, le pêcheur ou le petit camionneur qui a déjà du mal à se verser un SMIC. Et puis cette taxe, une fois installée, eh bien elle aurait fini par retomber sur nous tous, comme toutes les autres taxes, simplement du fait qu'elle aurait été répercutée sur tous les prix. Alors que la mobilisation en Bretagne ait forcé le gouvernement à suspendre cette écotaxe est une bonne chose, et l'annonce de sa suppression en serait encore une meilleure. Le matraquage fiscal concerne les classes laborieuses, les salariés, les retraités, y compris les plus pauvres, et plus généralement tous ceux dans les classes populaires qui vivent de leur travail. La preuve en est aussi la future augmentation de la TVA qui est prévue au 1er janvier prochain. Alors la TVA, c'est un impôt dont on n'entend pas beaucoup parler. Et pourtant, c'est non seulement l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Mais c'est aussi l'impôt le plus injuste qui soit. Parce que c'est un impôt qui frappe indistinctement au même taux tout le monde, qu'on soit millionnaire ou qu'on soit chômeur, ou même SDF. Et pourquoi le gouvernement veut-il augmenter la TVA au 1er janvier 2014 ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut payer ce fameux cadeau qui est fait au grand patronat avec le crédit d'impôt compétitivité, et il faut le payer, eh bien, en versant 7 milliards de plus au nom de la TVA. Alors, pendant la campagne électorale, Hollande avait promis une révolution fiscale, et au bout du compte, eh bien, il n'est capable que de prendre dans la poche des pauvres pour donner aux plus riches. Eh bien, il n'y a aucune raison de l'accepter. La seule politique fiscale juste, du point de vue des exploités, serait la suppression des impôts indirects. La suppression de toutes ces taxes, de la TVA jusqu'à la taxe sur les produits pétroliers. Et ce qui serait juste aussi, ce serait que l'impôt sur le revenu, qui ne s'applique justement qu'au revenu, c'est-à-dire qu'à l'argent qui est tiré de l'exploitation par le biais du capital, mais pas sur le salaire ni sur la pension de retraite. La seule politique fiscale juste, ce serait de faire payer les capitalistes sur les profits qui sont tirés de l'exploitation. L'autre combat à mener, c'est bien sûr le combat pour l'emploi. Mais là encore, il ne faut pas compter sur le gouvernement, il faut que les travailleurs ne comptent que sur eux-mêmes, sur leur lutte. Mais se mobiliser, manifester, mettre un bonnet rouge, vert ou je ne sais de quelle couleur, ne suffira pas. Les travailleurs ne pourront garantir leur emploi et leur salaire qu'à condition qu'ils se battent pour leurs revendications. À condition qu'ils mettent en avant leurs intérêts de travailleurs et d'exploités. À condition qu'ils se battent pour l'interdiction des licenciements. Et à condition de dénoncer toute prétention patronale à se poser en porte-parole des travailleurs. Parce que c'est ce qui s'est passé en Bretagne. Le patronat essaye aujourd'hui de tirer les marrons du feu. Il essaye de récupérer la mobilisation à son profit. Le MEDEF local, représentant les familles bourgeoises de la région, dont font partie, je le rappelle, les Doux, mais aussi les Pinot, les Bolloré et les Leclerc, est en bonne place dans les négociations qui sont censées conduire à un plan d'avenir pour la Bretagne. Mais s'ils y sont, ce n'est pas pour défendre l'emploi, c'est pour défendre leur profit. Tous ces patrons, eh bien, ils n'ont aucune légitimité à parler au nom des travailleurs licenciés. Et qu'ils en aient la prétention est révoltant. Parce que qui décide de tous ces licenciements en Bretagne ? Qui impose des cadences insupportables dans les abattoirs ? Qui impose aussi des salaires de misère et des conditions de travail qui démolissent la santé des travailleurs, si ce n'est ces gens-là ? Quant aux intérêts des petits agriculteurs et des pêcheurs, ils ne sont pas plus défendus par ces grands bourgeois. Dans le plan d'aide à la Bretagne qui est concocté par le gouvernement, il y aura des dizaines de millions d'euros qui iront à la filière de l'agroalimentaire. Mais les plus petits de cette filière n'en verront pas la couleur. Parce que dans ce système capitaliste, ce sont toujours les plus gros qui tirent la couverture à eux. Alors ces millions, eh bien, ils iront encore grossir les profits des groupes de l'agroalimentaire et qui continueront, comme si de rien n'était, à licencier et à comprimer les salaires d'un côté, et à ruiner les petits artisans et commerçants de l'autre. Autant les ouvriers et les travailleurs indépendants qui ne vivent que de leur travail ont des intérêts communs, autant ils peuvent se retrouver dans bien des combats communs, autant ils doivent récuser l'idée qu'ils ont quelque intérêt commun avec ce grand patronat. Tout le discours que l'on nous sert autour de la Bretagne et de sa particularité est nuisible à double titre. D'abord parce que cela laisse entendre qu'exploiteurs et exploités bretons ont des intérêts communs. Et ensuite, parce que cela coupe les travailleurs bretons des autres catégories, des autres travailleurs du pays, alors qu'ils ont à mener ensemble le même combat contre les licenciements. Et les fameux drapeaux bretons que l'on voit s'agiter dans ces manifestations, eh bien ils ne sont pas là que pour le folklore. Ils participent eux aussi à la tromperie. Et il ne faut pas que les travailleurs tombent dans le piège. Les travailleurs ont mille fois raison de manifester leur colère contre la politique anti-ouvrière du gouvernement, mais ils doivent le faire sur la base de leurs revendications et contre le grand patronat exploiteur. Il faut que les travailleurs affirment leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation et contre tous ces cadeaux qui sont faits au patronat et qui démolissent la sécurité sociale, les retraites, les services publics et qui se traduisent pour nous tous en impôts nouveaux. Les travailleurs doivent lever leur propre drapeau, le drapeau des exploités. Depuis plusieurs années, nous disons qu'il faut populariser autour de nous, dans la classe ouvrière, un programme de lutte pour les travailleurs. Eh bien, on en mesure aujourd'hui toute l'urgence. Pour que les travailleurs mobilisés ne se laissent pas entraîner dans de faux combats, pour qu'ils ne se mettent pas à la remorque des intérêts patronaux, eh bien, il faut relayer, dès aujourd'hui, les revendications des travailleurs. Il faut en discuter autour de nous, il faut les populariser. La priorité et l'urgence pour les travailleurs, c'est la fin des licenciements. C'est l'interdiction des licenciements et le partage du travail entre tous, sans diminution de salaire, de façon à résorber le chômage. Pour ceux qui ont un salaire et un emploi à temps plein, la vie devient de plus en plus difficile. Eh bien, pour les chômeurs, c'est pire encore. Parmi ceux qui ont été licenciés ces dernières années, et ici dans la région, entre Continental, UTI, il y en a beaucoup. Combien ont épuisé leurs droits au chômage et sont tombés aujourd'hui dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre? Combien sont menacés de perdre aujourd'hui leur logement après avoir perdu leur emploi? Alors empêcher que l'on tombe au chômage, c'est une question de survie. Au nom de la protection de la vie humaine, il est interdit aux propriétaires d'expulser les locataires l'hiver. Vous savez, c'est la fameuse trêve hivernale. Eh bien, il faut se battre aussi pour qu'au nom de la protection de la vie, il soit aussi interdit de licencier. L'interdiction des licenciements permettra de mettre un coup d'arrêt à ce fléau qui est la montée du chômage. Mais il y a 5 millions de femmes et d'hommes qui sont privés d'emploi aujourd'hui dans le pays. Alors pour résorber ce chômage, eh bien il faut qu'il y ait des embauches. Partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent plus poser leur congé, il faut des embauches en CDI et de vrais emplois avec des salaires pleins et entiers. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux où tous les 2 ans, un travailleur en remplace un autre qui est mis au chômage. Oui, il faut arrêter de concentrer tout le travail sur des travailleurs de moins en moins nombreux, mais au contraire, imposer de le répartir avec un salaire plein et entier, parce qu'un emploi et son salaire qui va avec, c'est la seule richesse des travailleurs. Et le revendiquer, c'est un droit qui est légitime. Que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1700 euros net et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances et ce, pour les salaires, mais aussi pour les pensions de retraite, aussi pour les minima sociaux. Si aujourd'hui, des salariés demandent à travailler le dimanche ou la nuit, ce n'est pas parce que ça les amuse, c'est justement parce qu'ils touchent des salaires de misère. Le travail du dimanche, comme les heures supplémentaires ou le travail de nuit, n'ont rien à voir avec du volontariat. C'est pour les travailleurs qui sont sous-payés une situation qui est imposée, forcée. Et cette question, le travail du dimanche, comme les heures supplémentaires, masque un seul problème, c'est celui des salaires. Et les travailleurs ne pourront pas le résoudre avec des arrangements individuels. La seule solution, c'est le combat collectif pour l'augmentation de tous les salaires et leur indexation automatique sur l'inflation. Ce sont des revendications élémentaires. À travers ces objectifs, les travailleurs ne font que revendiquer le droit à la vie. Mais c'est trop encore pour la bourgeoisie. Vous connaissez son discours ? Il n'y a plus d'argent, augmenter les salaires, embaucher est impossible. Le pays a un problème de compétitivité. C'est pourquoi ces deux objectifs sont liés à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. On ne peut pas et on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie. Les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation trouvent normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires, millions qui seront dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Et ici, avec l'entreprise continentale, vous en savez quelque chose. Hein ? Aujourd'hui, on nous explique que finalement, non, Continental n'avait pas les difficultés qui justifiaient les licenciements. Prenez aussi la famille Doux, qui sévit en Bretagne et qui a licencié des milliers de travailleurs sur ces deux dernières années en invoquant de grandes difficultés financières. Eh bien, elle n'a rien perdu de sa fortune. Elle continue de faire de belles affaires aux quatre coins du monde. Prenez la Redoute aussi, que tout le monde présente comme une entreprise très mal en point. Mais son propriétaire, c'est Pinault, une des plus grandes fortunes du pays, qui lui va très bien. Rien qu'en 2012, il a vu sa fortune croître de 4 milliards. Eh bien, c'est plus qu'il n'en faut pour garantir jusqu'à leur retraite les salaires des 700 emplois qui sont aujourd'hui menacés à Roubaix. En ce qui concerne la Redoute, mais c'était la même chose pour Doux, c'était la même chose pour Continental, ils ne sont obligés de rien. C'est leur rapacité, et leur rapacité seule, qui les amène à se débarrasser des entreprises et à mettre la clé sous la porte. Alors, pour que les travailleurs puissent se défendre efficacement, eh bien, il faut briser le secret des affaires, faire circuler les informations entre les travailleurs et les rendre publiques. C'est le seul moyen de vérifier, de savoir ce qu'il en est réellement des comptes, de l'argent qui entre et qui sort, des problèmes réels des entreprises. Beaucoup de patrons se plaignent aussi des charges trop importantes. Mais combien les banques prélèvent-elles sur leur chiffre d'affaires ? Combien payent-ils pour louer leurs locaux aux spéculateurs immobiliers, aux assurances ? Alors tout cela, eh bien, pourrait être su, dévoilé, publié, parce que les travailleurs, les paysans, les caissières, les comptables le savent parfaitement, à condition de briser le secret commercial. C'est bien sûr dans une période de montée des luttes et collectivement que les travailleurs pourraient imposer ce contrôle, parce qu'ils reprendraient confiance en eux et ils pourraient prendre l'habitude de tout dire, de tout mettre sur la place publique. Et on pourrait alors tout savoir, sur la comptabilité, sur les prix, sur les magouilles des bourgeois, des petits, des grands. Et on verrait aussi combien rapporte un salarié, combien rapporte un ouvrier. Et on mesurerait alors l'escroquerie qu'il y a à parler du coût du travail. Parce que le coût du travail, ça n'existe pas. Le travail ne coûte pas au patron, il leur rapporte. Le moindre centime que la bourgeoisie gagne lui vient de l'exploitation des travailleurs. Les millions d'euros que dépensent aujourd'hui les riches pour s'assurer leur train de vie de parasites est extrait de la peine et de la sueur des travailleurs. Alors voilà. Alors voilà ce que dévoilerait le contrôle des travailleurs. Le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat pour imposer leur domination. Eh bien, la levée de ce secret doit faire aussi partie du programme des travailleurs. Pour défendre leurs conditions d'existence, les travailleurs doivent se battre pour leurs intérêts, pour le programme que je viens de décrire, l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire, l'indexation des salaires sur les prix et le contrôle des comptes de la bourgeoisie. C'est en combattant les capitalistes de la distribution, de l'industrie et de la finance, que les travailleurs pourraient aussi entraîner derrière eux les autres catégories sociales qui vivent de leur travail sans exploiter personne. Mais ce sont bien les ouvriers, les exploités qui doivent prendre la tête du combat, parce qu'ils sont les seuls à n'avoir aucun intérêt à cette société d'exploitation, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir contester la dictature de la bourgeoisie et de ce système capitaliste qui ruine toutes les classes populaires et qui pèse sur toute la société. Et encore une fois, les travailleurs ne pourront le faire que s'ils ont leur propre programme, leur propre politique indépendante, leur propre parti et une profonde conscience de leurs intérêts de classe. Les responsables de la bourgeoisie et leurs larbins nous serinent du matin jusqu'au soir leur solution. Tantôt ils nous parlent d'innovation, tantôt ils nous expliquent qu'il faut rembourser la dette, tantôt ils nous parlent de protectionnisme ou de sortie de l'euro. Mais les travailleurs doivent opposer à toutes ces politiques qui répondent aux problèmes de la bourgeoisie leur propre politique, leurs programmes qui répondent à leurs problèmes. Revenir à ce programme de lutte, le populariser contre tous les mensonges de la bourgeoisie, affirmer que la classe ouvrière doit le brandir en toute indépendance est pour nous une boussole. Et c'est aussi la meilleure manière de ne pas tomber dans un autre piège, le piège de la propagande sur la compétitivité. Le patronat et la droite, son allié naturel, ont toujours cherché à faire croire que l'avenir de l'économie dépendait de la compétitivité des entreprises. Ils ont toujours défendu l'idée que l'augmentation de cette compétitivité devait être le seul et unique objectif de toutes les politiques publiques. Eh bien, depuis qu'ils sont au pouvoir, les socialistes y sont convertis, et même certains syndicalistes s'y sont mis. Mais pour les travailleurs, la compétitivité, c'est le grand retour en arrière. C'est l'exploitation, c'est le travail à la tâche, ce sont les salaires de misère. Aujourd'hui, en 2013, celui qui revendique un emploi en CDI, la retraite pleine et entière à 60 ans, avec 37,5 annuités de cotisation, celui qui revendique un salaire digne de ce nom, est au pire un dangereux extrémiste, au mieux un utopique. C'est-à-dire que ce qu'il y avait il n'y a de cela que 20 ans, est devenu aujourd'hui une folie utopique. Eh bien, voilà le résultat de la course à la compétitivité. La compétitivité, comme le capitalisme, ce sont les raisons d'être des capitalistes, pas des travailleurs. La bourgeoisie veut impliquer les travailleurs, les ouvriers, dans sa guerre économique qu'elle mène contre ses concurrents. Mais les travailleurs n'ont aucune raison de marcher. Comme ils n'ont aucune raison d'être attachés à cette économie stupide, aucune raison d'accepter de se sacrifier pour une économie qui est basée sur leur propre exploitation et basée sur leur appauvrissement. Faut-il accepter que nos vies dépendent des commandes que son patron saura arracher au détriment d'autres travailleurs? Faut-il accepter que notre salaire dépende des bonnes affaires que notre patron fera? Non. Les travailleurs n'ont pas à se laisser prendre au piège de cette propagande sur la compétitivité. Ils doivent revendiquer leur dû sans se soucier des conséquences sur la compétitivité ou sur les profits, sans se soucier de gêner les affaires de la bourgeoisie. La seule perspective pour la classe ouvrière, c'est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. Et si la bourgeoisie et ses serviteurs politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum vital aux travailleurs, eh bien qu'ils laissent la place. S'ils ne sont pas en mesure de garantir aux exploités leurs droits élémentaires à avoir un emploi et un salaire, eh bien il faut le renverser. Les travailleurs ne pourront se défendre efficacement que s'ils ont conscience qu'ils doivent combattre et le gouvernement et le grand patronat. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Beaucoup, à droite comme à gauche, critiquent la politique du gouvernement en accusant Hollande d'indécision et de manque d'autorité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même les psychologues s'en sont mêlés, en expliquant que les nombreux changements de pied de Hollande seraient dus à son enfance, passée entre une mère de gauche et un père de droite. Eh bien, il est ridicule d'allonger Hollande sur le divan des psychanalystes pour comprendre sa politique. Elle est celle de tout président de la République. Elle vise à préserver le système capitaliste et la classe qui en profite, la bourgeoisie. Si Hollande donne l'impression de changer de discours en permanence et de ne pas savoir où il va, c'est qu'à la différence de la droite, il ne l'assume pas ouvertement. Les socialistes au pouvoir sont dans le double discours parce qu'ils sont coincés entre les attentes de leur électorat et les attentes de la bourgeoisie dont ils sont les gestionnaires fidèles. Mais ils savent très bien où ils vont. Ils ont un cap. Ils font la politique que le patronat leur demande. Pour ArcelorMittal, Hollande a défendu Mittal. Il n'a pas reculé malgré la pression en faveur de la nationalisation du site de Florange. Il n'a pas reculé devant les ouvriers de Florange. Face à la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois, il a défendu la famille Peugeot. Il n'a pas reculé face aux ouvriers qui se sont battus pendant 4 mois contre la fermeture. Hollande a reculé sur les impôts pour les plus riches, pas pour ceux des plus modestes. Eh bien ça, c'est un cap politique. C'est une politique de classe. Hollande gouverne pour servir les intérêts des capitalistes. Il a été formé, il a été sélectionné pour cela. On nous dit que nous sommes en démocratie et que la population choisit ses dirigeants au travers des élections. Mais en réalité, il y a toute une série de filtres qui présélectionnent le personnel politique en fonction de son dévouement au système. Pour être à la tête des grandes villes, pour être à la tête des départements, des régions ou au gouvernement, il faut avoir montré patte blanche vis-à-vis des financiers et vis-à-vis des capitalistes. Il faut avoir fait la preuve de sa loyauté. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre Sarkozy et Hollande. Cela amène Hollande à faire une politique anti-ouvrière. Cela l'a amené à faire le cadeau du crédit d'impôt compétitivité dont j'ai parlé. Cela l'amène à mettre en place la loi sur la flexibilité, à attaquer les retraites et à augmenter les impôts jusqu'à la TVA qui pèsera sur les plus modestes. Mais il n'y a pas à s'en étonner. Oui, le gouvernement mène une politique anti-ouvrière et il est payé pour ça. Alors, les travailleurs doivent le savoir, en être convaincus. Le gouvernement mène la même politique que la droite et il faut le combattre comme si c'était un gouvernement de droite. Les travailleurs réagiront tôt ou tard aux attaques. Mais pour que leur combat ait une chance d'être mené jusqu'au bout, eh bien, il faut faire revivre cette conscience de classe et les idées communistes révolutionnaires que le mouvement ouvrier a portées pendant bien des années. Depuis que la classe ouvrière existe, les travailleurs se sont toujours battus pour leurs conditions d'existence. Mais c'est à l'honneur du mouvement ouvrier conscient que d'avoir défendu aussi des idées bien plus générales. Celle de la critique radicale de la société capitaliste, de son caractère injuste, incontrôlable, anachronique. La perspective tracée par le mouvement ouvrier révolutionnaire ne se bornait pas à la défense des exploités, mais à leur émancipation et à l'émancipation de toute la société du joug de l'argent. C'était la perspective de détruire la société capitaliste et de la remplacer par une société sans exploitation, sans la dictature des profits. Le mouvement ouvrier a levé non seulement le drapeau de la défense des exploités, mais aussi le drapeau de la société communiste. La transmission de ces idées et de ces valeurs propres à la classe ouvrière et au mouvement ouvrier s'est affaiblie au fur et à mesure des trahisons des différents partis ouvriers. Du Parti socialiste d'abord, puis plus tard du Parti communiste, qui se sont intégrés dans la société bourgeoise, qui se sont transformés en gestionnaires loyaux des affaires de la bourgeoisie. Et à cela s'ajoute la politique tout aussi démobilisatrice des centrales syndicales Et je parle des directions nationales des syndicats. Parce que dans le meilleur des cas, ces directions nationales font mine de s'opposer. Elles organisent des baroudes d'honneur, comme ça a été le cas, par exemple, sur les retraites, mais sans réellement armer les travailleurs moralement, sans leur donner de perspective. Et au pire, elles vont même jusqu'à justifier et jusqu'à contresigner les attaques contre les travailleurs. Alors voilà comment ceux qui prétendent être du côté des travailleurs ont distillé au sein de la classe ouvrière les valeurs et les idées de la bourgeoisie. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs, rebaptisés classe moyenne, reprennent les idées de la bourgeoisie. Ces idées qu'on nous répète à longueur de journée, à la télévision, dans la presse, à la radio, c'est-à-dire que l'économie doit être compétitive et qu'en fin de compte, l'intérêt des exploités, c'est que les exploiteurs s'enrichissent. Au point aussi que les idées nationalistes et protectionnistes qui étaient étrangères au mouvement ouvrier sont présentées aujourd'hui comme des évidences. Aujourd'hui, il est beaucoup question de la remontée des idées racistes dans la société. Comme à chaque crise, ce sont les pires préjugés qui remontent à la surface. Mais ils s'expriment d'autant plus que la caste politique chevauche tous ces préjugés pour des raisons électoralistes. L'extrême droite en fait bien sûr son fonds de commerce. Mais la droite lui court derrière. Et quand Valls déclare droit dans ses bottes que les Roms ne peuvent pas s'intégrer et qu'il faut les chasser, eh bien lui aussi, il fouille dans les poubelles du Front National. Parce que faire croire que 17 000 Roms est un problème insoluble pour un pays de 65 millions d'habitants, c'est vraiment abject. Je voudrais juste faire remarquer que cela n'a pas ému grand monde, y compris à la direction du Parti Socialiste. Et puisque l'immigration est revenue au centre du débat, eh bien je voudrais en dire deux mots. Je voudrais dire que la vie de beaucoup de travailleurs est celle de perpétuels nomades. Ici en France, il s'agit le plus souvent de faire quelques dizaines de kilomètres pour changer de ville, pour changer d'usine, pour trouver du boulot. Mais les travailleurs des pays pauvres sont, eux, forcés de faire des milliers de kilomètres, de changer de continent, de changer de langue et d'abandonner leurs attaches. Aujourd'hui, il paraît que de plus en plus de jeunes Français diplômés tentent une carrière à l'étranger, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à Singapour. Personne ne leur conteste ce droit. Eh bien, il n'y a aucune raison d'en priver les autres travailleurs, quelle que soit sa nationalité, son origine ou ses papiers. Tout travailleur doit être libre de circuler et de s'installer où il le souhaite. Les travailleurs n'ont pas de patrie, disait Marx. Tant il est vrai que le sort que le capitalisme réserve aux prolétaires, c'est d'aller là où il y a du travail. Tant il est vrai que rien ne sera jamais donné aux exploités, jamais assuré, et pas même le droit de se faire exploiter dans le pays où ils sont nés. C'est pourquoi le mouvement ouvrier conscient s'est toujours battu contre ceux qui voulaient opposer les travailleurs les uns aux autres, en fonction de leur nationalité ou de leur origine. La solidarité de classe et l'internationalisme doivent continuer de constituer les valeurs de la classe ouvrière. Le fait d'être les seuls à défendre les idées et les perspectives propres à la classe ouvrière rend notre activité et notre politique d'autant plus précieuse et indispensable. Oui, il faut reconstruire un parti qui oppose à tous les partis dévoués à ce système capitaliste une politique propre aux travailleurs, une politique qui ait pour objectif de préserver les intérêts de ceux qui travaillent. Une politique de classe qui oppose la classe ouvrière à son ennemi social, la classe capitaliste qui vit de l'exploitation. Il faut continuer à faire entendre cette voix comme nous le faisons dans nos activités quotidiennes. Et pour que les travailleurs ne soient pas réduits à devoir choisir aux élections municipales et européennes entre des candidats qui se placent tous dans le cadre de l'organisation capitaliste et sur le terrain de la bourgeoisie, et pour qu'ils puissent faire entendre le camp des travailleurs contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques, nous essaierons d'être le plus présents possible dans ces deux élections. Dans ces deux élections, nous ferons entendre la voix de ce courant du mouvement ouvrier qui considère que les travailleurs n'ont pas à choisir entre tous ceux qui ont pour perspective de perpétuer l'esclavage salarial, mais qu'il faut que dans ces élections, comme dans toute la vie politique, les exploités défendent leurs intérêts dans l'immédiat comme pour l'avenir de la société. Les municipales constituent la première possibilité électorale de rejeter la politique de Hollande et du Parti socialiste. Ces élections sont peut-être locales, mais la signification qu'on leur donnera aura un caractère national. Et c'est dans l'ordre des choses. Parce que les problèmes qui se posent à la population en général et aux classes exploitées en particulier ne sont pas des problèmes locaux ou municipaux. Il faut que les travailleurs puissent rejeter le gouvernement d'un point de vue de classe, d'un point de vue des intérêts des travailleurs. Il suffit de discuter autour de nous pour savoir que dans les milieux populaires, certains envisagent de voter pour le Front National pour exprimer leur rejet de la politique gouvernementale. Mais croire qu'il est possible de rejeter la politique anti-ouvrière du gouvernement et le cirque pour politiciens en votant pour le Front National, c'est se tirer une balle dans le pied. Le Front National, s'il parvenait au pouvoir, gouvernerait au profit de la bourgeoisie, comme les Sarkozy, comme les Hollande, comme ce fameux UMPS que le Front National dénonce. Mais il le ferait dans sa variante la plus autoritaire. Et le simple fait que le Front National jette en pâture les travailleurs immigrés, c'est-à-dire une partie de la classe ouvrière, une fraction de nous-mêmes, en fait un ennemi mortel pour nous. Certains se disent que voter pour le Front National donnera un coup de pied dans la fourmilière. Mais si le vote Front National pèsera, il pèsera dans le sens contraire aux intérêts des travailleurs. Parce que le vote Front National, eh bien, il sera interprété comme une critique du gouvernement, mais une critique sur sa droite. Parce que les votes venant des plus pauvres se mélangeront avec ceux des pires réactionnaires, avec tous ces patrons qui sont anti-ouvriers et qui rêvent de faire disparaître le SMIC, le RSA, les syndicats. Ils se mélangeront avec tous ceux qui sont nostalgiques des colonies, de l'OAS, avec les racistes. Voter Front National sera interprété comme l'exigence d'une politique plus dure contre les travailleurs, contre les chômeurs, une politique plus dure contre tous ceux qui veulent s'organiser et se défendre. Pour un travailleur, voter Front National, c'est tendre le fouet pour se faire battre. Bien sûr, il faut rejeter le gouvernement. Mais il faut rejeter sa politique anti-ouvrière en mettant en avant les intérêts des travailleurs. En plus d'exprimer une colère contre le gouvernement, il faut que les travailleurs affirment leur volonté de se défendre contre le grand patronat. Parce qu'il ne suffit pas d'exprimer sa colère contre des marionnettes. Il faut aussi viser ceux qui tirent les ficelles, la bourgeoisie, les financiers, les actionnaires. Il faut viser les licencieurs, les exploiteurs, tous ces parasites qui s'engraissent sur le travail de tous. Pour faire reculer ce patronat et le gouvernement, il n'y aura pas de miracle. Il faudra des luttes massives de la classe ouvrière. Mais quand l'occasion se présente, quand elle nous est donnée de nous exprimer dans les élections, et ce sera le cas dans les municipales et dans les européennes qui viennent, eh bien il faut que les travailleurs utilisent cette occasion pour exprimer leur colère, pour exprimer une colère consciente contre la bourgeoisie et contre ses serviteurs politiques, toutes obédiences confondues, du Parti socialiste jusqu'au Front National, en passant bien sûr par la droite et par le centre. Il s'agit de reprendre le combat mené par des générations de militants pour doter la classe ouvrière d'une conscience de classe, pour l'armer politiquement. Au regard de cette perspective, qui est immense, se présenter aux élections municipales ou aux européennes peut sembler bien mince. C'est peut-être peu, mais c'est aussi beaucoup. parce que c'est à travers tous ces combats politiques, y compris à l'occasion d'élections, que peut émerger et se forger un parti politique qui représente les intérêts des travailleurs, un véritable parti communiste. Alors, je fais appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui voudraient apporter leur pierre, que ce soit à l'occasion des prochaines élections ou au travers de nos différentes activités. Il y a de la place pour tous. Le mouvement ouvrier s'est développé à travers la collaboration de centaines, de milliers de femmes et d'hommes qui ont chacun apporté leur contribution. Eh bien, chacun peut aujourd'hui aider à sa façon et nous avons besoin de tous.
Je crois qu'on aura l'occasion, enfin, si vous voulez rencontrer encore un petit peu ou discuter avec Nathalie Arthaud, elle restera un petit peu pendant l'apéritif. Et puis aussi, comme elle l'a dit, nous avons à l'entrée une table de presse où est disponible tout ce qu'on écrit, notre hebdomadaire. Et surtout, évidemment, comme le disait Nathalie aussi, si vous souhaitez contribuer à faire évoluer ces idées, à les défendre autour de vous, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Et bien sûr, je vous encourage tous de le faire. Et avant l'apéritif, écoutez, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'intoner le chant des travailleurs, l'international. Et ce que je vous demanderai juste un petit peu après, c'est évidemment pour que l'apéritif se déroule bien, il se déroulera juste derrière, que les camarades puissent préparer la table, pour les tables pour le banquet. Voilà.
Je mets mon